Les parlementaires socialistes pourraient ne pas voter le projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'ils laissent entendre dans une tribune publiée par le journal Le Monde. On y revient dès le début du journal. En métropole, 4 suspects interpellés dans le meurtre de Quentin à Lyon. Parmi eux, l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau appartenant à la Jeune Garde. Le sport et les Bleus sur le toit du monde en biathlon. Le relais masculin tricolore a décroché l'or en devançant la Norvège. Record de médailles battu sur une Olympiade hivernale. Le football et un duel entre pensionnaires de Ligue 1 en barrage aller de la Ligue des Champions. Le PSG se déplacera à 7h à Monaco. La météo en Nouvelle-Calédonie, le temps s'améliore en cours de journée. Le vent de sud-est souffle autour de 20 nœuds. Quant aux températures maximales, elles atteignent 28 à 30 degrés jusqu'à 31 à 32 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'avenir institutionnel.
Oui, les parlementaires socialistes pourraient donc ne pas voter le projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 7 à signer une tribune publiée par le journal Le Monde et intitulée « Il n'y a pas de solution durable assurant la paix, la stabilité et le développement sans un accord consensuel et inclusif ». Parmi les signataires, les députés Olivier Faure et Boris Vallaud, ou encore le sénateur Patrick Kanner. Ils estiment que le projet de réforme constitutionnelle est lourd de menaces et de dangers. Et ils écrivent que le gouvernement ferait mieux de ne pas s'entêter et de reprendre le chemin du dialogue. Ces parlementaires socialistes laissent donc entendre qu'ils ne voteront pas le projet de réforme constitutionnelle. Et ils indiquent que, faute d'aboutissement de la révision constitutionnelle, il convient donc de programmer les élections provinciales. Le député Nicolas Metzdorf, que nous avons joint hier, n'est pas surpris de cette prise de position. Mais il y voit surtout un coup de pression de la part des socialistes.
C'était prévisible, hein. On avait senti depuis quelques jours, voire quelques semaines, que les socialistes étaient très fébriles malgré les appels du Palika à soutenir le texte. Après, c'est un coup de pression avant que le texte n'arrive au Sénat et à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je recommande au gouvernement, c'est de maintenir le calendrier et de rien toucher du tout, de garder le texte inscrit à l'ordre du jour. Et quand bien même les socialistes confirmeraient leur position, il nous reste à discuter avec le Rassemblement national, avec toute la droite, donc le Parti socialiste, c'est pas la l'alpha et l'oméga de la majorité au Parlement. Et donc, il y a encore des possibilités qui restent ouvertes.
Des possibilités restent ouvertes selon le député de la première circonscription. Il rappelle que le projet de loi constitutionnelle va seulement débuter son parcours législatif qui comporte plusieurs étapes.
Au Sénat, on devrait avoir une majorité, donc la première étape va être franchie. Et ensuite, c'est à l'Assemblée nationale, fin mars, que tout se décidera. Donc on a le temps de faire bouger les lignes d'ici là. On a déjà eu quelques échanges avec Naïma Moutchou, qui était, elle, pour maintenir le calendrier initial. Donc pour l'instant, malgré ce coup de pression des socialistes, on reste déterminés, nous, à dérouler les choses comme prévu. Nous, demain, les loyalistes, on est en visio avec le groupe socialiste du Sénat. Donc, en fait, les uns et les autres discutent tout le temps avec les différents groupes. Je crois que c'est juste une position que le Parti socialiste a décidé de tenir depuis un moment déjà.
Et c'est donc aujourd'hui que les loyalistes devraient avoir une visioconférence avec le groupe socialiste du Sénat. Le contact est également maintenu avec le groupe Rassemblement National à l'Assemblée, qui n'a pas encore arrêté sa position. On rappelle que la commission des lois du Sénat doit débuter aujourd'hui l'examen de la réforme constitutionnelle et que le gouvernement a retenu la date du 13 avril pour une éventuelle convocation du Congrès du Parlement à Versailles. L'actualité en Nouvelle-Calédonie marquée par ces annonces. L'aéroport de la Tontouta est donc prêt à accueillir les passagers domestiques. C'est en tout cas le message passé hier matin par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la CCI et la compagnie Aircal, Léana Colombo.
Et oui, le 2 mars prochain, les vols d'Aircal ne seront plus opérés depuis Magenta mais à la Tontouta. Un projet resté longtemps dans les cartons mais dont la mise en œuvre s'est accélérée après la crise économique liée aux violences du 13 mai 2024. Cette mutualisation des infrastructures doit permettre à la Nouvelle-Calédonie de réaliser des économies importantes. Cela représente une suspension d'environ 1 milliard de francs d'investissement au titre des infrastructures et une réduction des charges de l'ordre de 500 millions pour la compagnie. Un effort nécessaire pour sauver Aircal, rappelle Alcide Ponga, le président du gouvernement.
Ce plan fait partie aussi du plan de sauvetage de la connectivité aérienne entre les îles et la Grande Terre. Moi, je ne veux pas être le président qui n'a rien fait et qui a laissé couler la connectivité entre la Grande Terre et les îles. Parce que si on ne complète pas le plan de redressement de Aircal avec cette opération, c'est le risque que certains veulent prendre. Moi, je ne veux pas le prendre.
Air Calédonie promet également un meilleur service, que ce soit au sein de l'aéroport, même si les prix vont augmenter en raison des taxes aéroportuaires. Daniel Ombouy, le directeur général d'Air Calédonie.
un grand changement, mais en même temps, on s'y prépare de longue date. 3 avions qui seront en permanence là, avec du personnel, à peu près 80 personnes qui sont concernées, qui travailleront Air Calédonie à Tontoual. On pense que les gens, après avoir essayé, adopteront tant ou tard comme, et auront pris des habitudes ici à la Tontoual, parce que, comme vous pouvez le voir, l'infrastructure est belle, elle est de qualité, et qu'ils apprécieront leur expérience de voyage au départ de la Tontoual vers les îles ou l'arrivée.
Depuis juillet 2025, la CCI a dû procéder à des aménagements à l'intérieur de l'aérogare pour permettre la cohabitation des flux de passagers domestiques et internationaux. Le parcours définitif des voyageurs sera en place en milieu d'année. Rémi Berdoyès, le directeur de l'aéroport.
On aura des installations qui sont mutualisées sur la partie départ. Et puis à l'arrivée, une salle d'arrivée dédiée aux passagers domestiques qui pourra derrière leur donner accès à l'ensemble des services que propose l'aéroport. L'accès aux navettes, l'accès au parking et aux différents commerces. Les infrastructures sont prêtes, les équipes sont prêtes et motivées. On a vraiment à cœur d'accueillir les passagers domestiques dans les meilleures conditions. On est conscient de l'impact que ça génère pour l'ensemble de la population et on se tient prêt à faire du mieux possible pour que ça se passe bien.
Le déménagement d'Air Cal à Tontoutat est prévu le 2 mars et continue de susciter des réticences. Je rappelle que les coutumiers des îles ont annoncé le blocage des aérodromes les 20 et 21 février ainsi que le 2 mars pour protester contre ce déménagement. Les collectifs d'usagers prévoient aussi une marche vendredi matin au départ de la vallée du Tir.
Et j'ajoute que nous reparlerons du déménagement d'Air Calédonie à la Tontoutat ce matin. Notre invité à 7h30 sera en effet Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L'actualité institutionnelle est un projet de loi du pays pour apporter des réponses à la crise de mai 2024 en matière de droit du travail, mais aussi de la protection sociale. Il a été adopté à l'unanimité hier matin par les élus du Congrès qui étaient réunis en séance publique, Léana.
Ce projet de loi du pays avait été préparé et travaillé avec l'ensemble des partenaires sociaux et son objectif affiché est effectivement d'apporter des réponses à la crise de mai 2024. On retient 2 volets essentiels. Le premier, créer une présomption de démission en cas d'abandon de poste par un salarié. Les précisions de Gilles Brial, le rapporteur spécial de ce projet de loi du pays.
Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne se présentent plus au travail, qui ont décidé de quitter leur travail, mais qui ne veulent pas démissionner pour pouvoir bénéficier finalement des allocations chômage. Ce qui met en difficulté les entreprises, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui vont courir après ces personnes, qui vont engager des démarches longues, qui ne peuvent pas recruter puisque le poste est bloqué, et des démarches longues pour pouvoir licencier la personne. L'objectif, c'est quand il y a une suspicion finalement de démission, le chef d'entreprise enclenche une procédure qui est validée par la DTE pour pouvoir transformer cet abandon de poste en démission.
La loi du pays institue également un délai de carence en cas de maladie non professionnelle des salariés du secteur privé. Il s'agit de réduire ce que l'on appelle les arrêts maladie du vendredi et du lundi qui coûtent très cher à la collectivité. La loi de pays prolonge par ailleurs le dispositif d'accompagnement au maintien de l'emploi, un dispositif qui était très attendu, reconnaît Naya Wateu, membre du gouvernement en charge du travail et de l'emploi.
C'est un peu plus de 290 entreprises aujourd'hui qui continuent d'être accompagnées et derrière elles, c'est des milliers d'emplois et de milliers de personnes et d'hommes et de femmes qui rentrent encore à la fin du mois avec un salaire. C'est essentiel dans ce contexte. Mais voilà, on avait besoin d'avoir cette confirmation qu'on était en capacité financière de pouvoir soutenir ce dispositif. Aujourd'hui, on l'a. Maintenant, c'est un dispositif qui va être jusqu'au 31 juillet 2026. Ça ne règle pas la situation. Encore une fois, sans stabilité institutionnelle et sans relance de l'économie, on devra encore faire ses efforts.
Un projet de loi du pays adopté à l'unanimité. Les élus se retrouveront demain jeudi pour une nouvelle séance publique. Il s'agira cette fois-ci d'examiner les budgets 2026 de la Nouvelle-Calédonie.
Et dans un communiqué signé de son président Bertrand Courte, le MEDEF-NC salue les dispositions concernant l'emploi adoptées par le Congrès. Il rappelle que dès juin 2024, le MEDEF avait pris l'initiative d'ouvrir des négociations entre partenaires sociaux pour apporter des réponses juridiques et opérationnelles aux conséquences économiques des exactions et à la destruction massive d'emploi. Le MEDEF-NC et son nouveau président prennent donc acte de l'adoption de ces dispositions issues d'un travail structuré du dialogue social et porté auprès des institutions du territoire, même s'il aurait souhaité que ces mesures puissent intervenir plus rapidement.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et avant de refermer cette page, c'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Est-il normal, selon vous, que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent Christian Théin malgré ses mises en examen pour des faits d'une particulière gravité ? Si vous trouvez normal qu'ils le reçoivent, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier à présent est à l'unanimité. Les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent que la sécurité aux abords des établissements scolaires est l'une de leurs préoccupations à l'occasion de cette rentrée 2026. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à la question du jour. Évidemment, on marquera une pause, une page spéciale rentrée scolaire tout à l'heure, un petit peu plus tard dans ce journal. Avant cela, un autre rendez-vous d'antenne. Nous parlerons du Salon international de l'agriculture à midi sur Radio Rythme Bleu. Il se tiendra du 21 février au 1er mars 2026 au Parc des Expos de Versailles à Paris. Après une année d'absence, la province sud fait son grand retour. La province qui, en partenariat avec la Chambre d'agriculture et de la pêche, sera présente dans le village du Pacifique aux côtés de la Polynésie française et de Wallis et Futuna. Pour en parler ce midi, nous recevrons Lionel Brinon qui sera notre invité dans le journal Infomag. Il est 6h42, vous écoutez Radio Rythme Bleu, merci d'être avec nous. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité en métropole marquée par cette enquête sur le meurtre de Quentin, 23 ans à Lyon.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Décompressez au Phare Amédée avec le Maridé. Si loin, mais si près, téléphone 26 31 31. Réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
On pulvérise les prix chez Bureau Vallée. Le fauteuil Gamer Fusion S est à moins 25%, soit 19 425 francs.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valide jusqu'au 22 février 2026.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'actualité en métropole et à Lyon, l'enquête avance sur le meurtre de Quentin, 23 ans. Les enquêteurs progressent grâce notamment aux témoignages et aux vidéos dont ils disposent. La nuit dernière pour nous, la police a identifié 6 personnes et en a interpellé 5. Et tous les suspects sont issus de l'ultra-gauche. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Oui, 5 personnes âgées d'une vingtaine d'années, tous appartenant à la mouvance d'ultra-gauche. Selon les informations d'Europe 1, parmi eux, l'attaché parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau. Le suspect était un membre actif de la Jeune Garde, de groupuscules d'extrême gauche dissous en juin dernier par Bruno Retailleau. Selon les informations d'Europe 1, parmi les interpellés, il y a aussi Adrien B., un autre membre de l'organisation ultra-violente fondée par Raphaël Arnaud. Alors à ce stade, un vaste coup de filet est en cours. Selon une source policière, les enquêteurs ont identifié 15 suspects, dont les 5 déjà interpellés. Les arrestations se poursuivent et pourraient durer toute la soirée. Les policiers vont désormais pouvoir établir le rôle de chacun dans le lâchage et la mort de Quentin. Pour homicide volontaire, les mises en cause en cours jusqu'à 30 ans de réclusion.
Le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a demandé que des réunions de type de celle organisée par Rima Hassan à Sciences Po Lyon soient interdites dans les lieux universitaires, ce qui a provoqué la fureur de la France insoumise. Un sujet qui s'est très vite invité, en tout cas à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement la nuit dernière. Les députés ont alerté sur la menace de l'ultra-gauche et ses liens politiques à la France insoumise. Et la droite demande même des comptes au gouvernement avant d'embraser l'hémicycle. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Oui, Laurent Wauquiez ouvre les hostilités contre Sébastien Lecornu et pointe le laxisme du gouvernement face à une organisation pourtant dissoute.
Aujourd'hui, l'extrême gauche a du sang sur les mains. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les actions que vous êtes déterminé à prendre pour faire cesser l'ultra-violence de cette ultra-gauche dans la République française?
Le Premier ministre assure que les services de l'État ont été exemplaires et accuse la France insoumise d'avoir une part de responsabilité dans ce meurtre. Touchée, Mathilde Panot tente de se défausser.
Faire peser sur notre groupe une responsabilité morale imaginaire ne parviendra pas à éclipser votre réelle responsabilité politique.
Sébastien Lecornu ne tolère pas ce renversement de l'accusation.
Ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. Pourquoi tout le monde doute de votre sincérité et pourquoi personne ne veut vous croire? Tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot.
Raphaël Arnaud et son assistant parlementaire, accusés d'avoir participé au meurtre de Quentin, restent bien silencieux, cachés loin des caméras. Aujourd'hui, la France Insoumise n'ose plus assumer ses liens avec la Jeune Garde, une association pourtant choyée par Jean-Luc Mélenchon.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 à l'Assemblée nationale. En bref, une enquête ouverte après la mort d'un enfant de 8 ans percuté hier à Nîmes alors qu'il se rendait à l'école. 6 personnes, dont le conducteur présumé, ont été placées en garde à vue selon une source policière. Et selon les premières informations, le conducteur, âgé de 17 ans et n'ayant pas son permis évidemment, a percuté la victime qui traversait la route. 2 autres passagers étaient à bord de ce véhicule de location. Il est 6h46, vous écoutez Radio Rythme Bleu. Une nouvelle pause dans ce journal. Avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire, on prendra des nouvelles du ciel avec les conditions météo pour aujourd'hui, mais aussi notre page spéciale rentrée scolaire.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Votre tranquillité d'esprit avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
Sauvant Carrelage, c'est le spécialiste des revêtements de sol et murs, intérieurs ou extérieurs, depuis plus de 50 ans. Carrelage, sol souple, pierre naturelle, margelle, dalle. Sauvant Carrelage, 16 rue Fernand Forest, à Ducos. Plus d'infos sur sauvantcarrelage.com ou sur Facebook Sauvant NC.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Info matin, la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et après plusieurs heures, plusieurs jours passés sous la pluie, une amélioration est à prévoir. Le soleil devrait faire son grand retour dans la matinée sur une bonne partie de la Grande Terre, Léana Colombo.
Et oui, le temps est à l'amélioration avec de belles éclaircies sur le nord-ouest. Mais sur le reste du territoire, le ciel reste plus chargé avec quelques averses qui touchent essentiellement le sud. 15 communes sont toujours en vigilance jaune, forte pluie orage sur Poumé-Bélep, les Loyautés et la côte est. Les détails avec Lionel Deric, chef prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Sur l'ouest, ça commence à s'améliorer. On commence à avoir des éclaircies. Donc, bon, il peut y avoir encore des petites averses, mais oui, ça s'améliore bien. Par contre, sur la côte est, ce matin, ça a l'air de s'améliorer, mais il risque d'avoir des développements sur la chaîne qui vont déborder sur l'est, avec aussi un risque orageux pour donc cet après-midi et la nuit prochaine.
Les intempéries qui ont touché la Calédonie depuis dimanche ont surtout affecté la brousse avec des cumuls de pluie parfois importants par endroits, indique Lionel Deric.
Il a plu à peu près partout, hein. On est sur des cumuls de vigilance jaune, c'est-à-dire entre 50 et 100 mm. Il y a des régions où il a plu un peu plus, la Bélep, sur les 24 heures on a eu 137, il a plu encore pas mal cette nuit, on a eu 71 mm à Bélep dans la nuit. Là. Il a plu beaucoup aussi vers Gouraud, on a eu à peu près 100 mm là, sur les 24 heures.
Des nuages et de faibles averses pourraient faire leur retour par endroits sur la Grande Terre en fin de semaine. Une zone dépressionnaire devrait se rapprocher par le nord et dégrader à nouveau le temps sur le territoire.
Dans le reste de l'actualité à Païta, des incendies à répétition sur le site d'enfouissement des déchets de Gadji. Le dernier date de ce week-end. Des départs de feu provoqués par la présence de déchets dangereux, pourtant strictement interdits. Des fusées de détresse, des bouteilles de gaz ou encore des extincteurs. La Calédonienne des services publics pointe du doigt les incivilités de la population. Gaël Pierre est le co-gérant de la CSP. Il exploite le centre d'enfouissement des déchets de Gadji.
Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comme il n'y a pas de mode de récupération des déchets dangereux pour les petits patentés, les gens qui ont une vieille bouteille de gaz de camping, les gens qui ont un extincteur de chez eux, des choses comme ça, il n'y a pas de circuit vraiment de reprise, eh bien les gens, ils les cachent. Et les fusées de détresse, c'est pareil. Les fusées de détresse, il y a plein de bateaux en Nouvelle-Calédonie. Les fusées de détresse, quand vous les achetez, elles ont une durée de vie à peu près de 2-3 ans, et ça c'est excessivement favorable à un départ de feu quand ça explose, et comme les gens n'ont pas des moyens, ils nous cachent ça dans les ordures. Même si nous on a des agents pour surveiller, eh bien on ne le voit pas. Donc en fait c'est de l'incivilité, les gens le cachent pas s'il n'y a pas de mode de reprise.
Et pour Gaël Pierre, il faut dans un premier temps faire raisonner les citoyens et également que les institutions mettent en place des solutions concrètes pour traiter ces déchets dangereux. Dans l'actualité religieuse, c'est donc aujourd'hui le mercredi des cendres qui ouvre la période du carême, un temps important pour les catholiques puisqu'il s'agit des 40 jours qui amènent à la fête de Pâques. Ce cheminement culmine avec la semaine qui précède Pâques, la semaine sainte, qui commence par le dimanche des Rameaux. Cette année, la fête de Pâques qui célèbre la résurrection du Christ aura lieu le 5 avril et c'est donc aujourd'hui, 18 février, le mercredi des cendres, un jour de pénitence marqué par la cérémonie d'imposition des cendres. Le père Roch Apikawa, vicaire général du diocèse de Nouméa, nous rappelle la signification des cendres.
Les cendres, c'est ce qui est proche de la poussière, pour rappeler la condition humaine. Ça peut être des branchages sèches qu'on a fait brûler, ou les chrétiens ont tradition de garder les rameaux de la fête de Pâques d'avant, qui au cours de l'année ont séché, on les enflamme et on récupère les cendres, et ce sont ces cendres qu'on dépose sur notre tête avec deux formules. Croyez en l'Évangile et convertissez-vous, ou bien souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière.
Le mercredi des Cendres marque donc l'entrée dans le carême et c'est un jour de jeûne et d'abstinence. Quant au carême, c'est une période de 40 jours consacrée à la prière, au partage et à la pénitence.
C'est une invitation que l'Église fait aux chrétiens de la part du Seigneur pour célébrer trois dimensions dans leur vie. La prière avec l'écoute de la parole de Dieu, le partage en se tournant les uns vers les autres et aussi en faisant pénitence. La pénitence nous rappelle que toutes les fois où on se tourne vers Dieu, il nous pardonne. La confession, c'est tout autre chose. C'est une décision que je prends d'aller rencontrer le prêtre pour faire le point dans ma vie, pour que je ne sois pas seul, jugé parti de ma vie chrétienne, que je sois aidé pour rester dans les clous de la vie chrétienne, dans le chemin du Christ.
La cérémonie d'imposition des cendres aura lieu aujourd'hui dans de nombreuses paroisses de Nouvelle-Calédonie, à la cathédrale de Nouméa. Une cérémonie a lieu en ce moment d'ailleurs lors de la messe de 6h et une autre se déroulera ce soir à 18h.
Suivez les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, Quartier Latin et Koumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais.
Et à midi, tous les enfants scolarisés cette année auront fait leur rentrée. Elle s'étale en effet depuis lundi sur 3 jours pour permettre aux élèves de chaque niveau de prendre leur marque. Il faudra attendre la mi-mars pour connaître les effectifs exacts de cette année scolaire. Un peu moins de 60 000 élèves sont concernés cette année, mais il y a toujours des ajustements de dernière minute pour certains élèves. Une rentrée sereine, nous a dit hier le vice-recteur Didier Vindatich, au regard des retours que lui ont fait les chefs d'établissement du secondaire. Rentrée sereine également dans les établissements scolaires de la DEC. L'émotion provoquée par la fermeture annoncée quelques jours avant la rentrée de certains internats et micro-cantines de la DEC est retombée et des solutions ont été trouvées, nous a confirmé le directeur de la DEC, Manuel Van Arscott.
Rentrée sereine, marquée, comme tout le monde sans doute, par quelques fermetures de nos fonctions d'accueil, quelques micro-cantines et des internats, mais qui n'a en grande partie aucune conséquence sur les inscriptions des élèves. Par exemple, à Thiers, nous avions 22 internes, seuls 3 ont décidé de changer d'établissement parce qu'il était absolument utile qu'ils soient internes. Par contre, sur les 22, 19 se sont transformés, ont changé de qualité et sont devenus demi-pensionnaires. Un certain nombre, notamment à Païta et à Bouraille, et c'est nous qui l'avons proposé, changé d'internat puisque nous avons fermé 2 structures. Pour les micro-cantines sur la côte Est, un grand nombre d'endroits, les parents se sont mobilisés pour l'instant, comme c'est le cas à Lifou également, servent des repas aux enfants dans des conditions évidemment légales, d'hygiène, etc. Et des solutions sont étudiées avec certaines mairies pour pouvoir pallier à notre arrêt de ces micro-cantines.
L'année scolaire a donc repris. La première période de vacances débutera le 4 avril prochain. Et d'ici là, les élèves, en plus de leurs cours et apprentissages fondamentaux, vivront au rythme de la semaine consacrée à l'égalité des filles et des garçons du 4 au 9 mars. La semaine suivante, c'est le sport scolaire qui sera mis à l'honneur.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Allez, tenez, vous pouvez vous aussi vous poser la question, quel est pour vous l'objet qui symbolise la rentrée scolaire? On a posé cette question à plusieurs personnalités du territoire pour cette rubrique consacrée aux souvenirs de rentrée. Et c'est la réponse ce matin du président du CTOS, Christophe Dabin.
C'est pas une rentrée scolaire quand j'étais enfant ou jeune. C'est plus ma première rentrée quand j'ai commencé en tant qu'enseignant à Kouaoua, avec une classe de CE2. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et là, c'est tout le travail que tu fais des semaines avant pour dire, faut que je sois prêt, faut que j'apporte quelque chose. Et c'est ça qui est important parce que tu sens le poids, l'importance de ton rôle, de ta mission. Et que tu sais que tu dois faire quelque chose pour pas que les enfants passent à côté de leur scolarité. Je crois que l'objet que j'ai amené, c'était un ballon, parce que à l'époque, le sport était extrêmement important. Et ça permettait, avec ce ballon, de pouvoir dire aux élèves qu'on allait faire de l'éducation physique et sportive. Et que là, même le premier jour, on pouvait prendre le temps d'y aller et de s'amuser et de faire déjà passer des apprentissages.
Si vous aviez un message de rentrée scolaire à faire passer à tous ces élèves, ces enseignants qui font leur rentrée scolaire?
C'est un moment important, autant pour les élèves que pour les enseignants. Pour les enfants, c'est se dire, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de contrainte. On y va, parce qu'on sait que de toute façon, on a l'école, on sait ce qu'on doit faire. Et c'est chacun va faire comme il peut. Donc ne pas se mettre un stress, une pression particulière. Et pour les enseignants, ce que je pourrais dire, c'est vous avez en face de vous des enfants. Vous devez leur apporter quelque chose. Tenez compte de chacun.
Christophe Dabin, le président du CTES, qui évoquait donc l'objet qui, pour lui, symbolise la rentrée au micro de Kélinda Boiscou.
C'était les pages souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez-nous voir à notre showroom situé au 174 rue Augusto Benebig à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Et je rappelle que pour accompagner cette rentrée, vous retrouvez cette rubrique consacrée à l'objet qui symbolise la rentrée tous les jours de la semaine sur Radio Rythme Bleu.
C'était les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sac et cartable, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, Quartier Latin et Koumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h57. Merci d'être avec nous. On marque une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
On n'a jamais vu une rentrée aussi folle chez Cheval Distribution. Les croquettes Cobber 20 kg pour chiens à partir de 4 995 francs. Les chaussures Redback à 9 990 francs seulement. Ayez le réflexe Cheval Distribution. Vos animaleries jardineries à Belleville et à Apogoty.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et ça y est, c'est fait. La France a battu son record de médailles au JO d'hiver. Le relais homme en biathlon lui a apporté sa 16e médaille et c'est de l'or. Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault ont réalisé une super performance en bataillant avec les Norvégiens. Émilien Jacquelin notamment était le deuxième tricolore de ce relais. Il a pris le témoin à la 13e place, à 50 secondes de la tête de la course. Et il a réussi un relais d'anthologie pour replacer la France en tête. C'est le 5e titre des Bleus en Italie, record égal sur des Jeux Olympiques d'hiver. Malheureusement, coup dur en hockey sur glace puisque c'est fini pour l'équipe de France. Déjà battue 3 fois en poule, la France a logiquement été éliminée par l'Allemagne. 5-1 lors du barrage d'accession au quart de finale. Du football, on joue les barrages allés de la Ligue des Champions. Ce matin, le PSG se déplacera d'ici quelques minutes sur la pelouse de Monaco à 7h. Le Real Madrid ira jouer contre le Benfica. Et puis, on a également un match qui a commencé un tout petit peu plus tôt. La Juventus Turin a pris une claque puisqu'elle menait 2-1 sur la pelouse du Galatasaray à la pause et finalement eh bien le Galatasaray s'est imposé 5-2. Et puis le sport sur le territoire enfin à quelques jours du Nea City Trail qui marquera samedi le coup d'envoi de la saison des courses en pleine nature. L'enthousiasme est palpable. Le Nea City Trail, c'est 3 parcours proposés et un village animé au cœur des boucles de Tina. Les inscriptions ouvertes jusqu'à ce soir 22h affichent déjà plus de 1000 participants. C'est un record, mais il reste encore quelques places, assure Julie Prunet, co-gérante de Pro Events qui organise donc ce Nea City Trail.
Il nous reste encore 100 places à vendre au jour d'aujourd'hui. Première fois pour la part de Pro Events d'avoir plus de 1000 coureurs sur un événement. Donc le stress monte, mais on est confiant. On va vous accueillir comme prévu avec de belles images avec lesquelles vous allez repartir samedi soir. L'équipe de Raymond Raprod nous fait un super village bien dynamique avec beaucoup de musique, un DJ, beaucoup d'animation sur les parcours. Il va y avoir encore plus de paillettes dans les yeux que l'année dernière. Et le petit train sera là pour vous emmener du parking jusqu'aux boucles de Tina pour éviter de marcher.
Le Nea City Trail, c'est donc ce samedi aux boucles de Tina. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce soir, 22h, sur le site inlive.nc.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soitil, Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Alors, on en a parlé un petit peu dans le journal, Thierry, mais les conditions météo pour aujourd'hui, ça donne quoi?
Voilà, et on va démarrer par cette vigilance jaune qui concerne de fortes pluies et des orages. Ce sera sur Poum et Bélep, le nord, donc pour aujourd'hui, mercredi, sur les Loyautés et la Côte Est, ainsi que le nord de Thiou pour aujourd'hui et la nuit prochaine. Ce matin, le temps reste très maussade sur les Loyautés et l'extrême nord, avec de nombreux nuages et des averses encore localement soutenues, voire orageuses. Sur la Grande Terre, le temps est à l'amélioration, avec de belles éclaircies sur le nord-ouest. Sur les autres régions, le soleil restera chargé avec quelques averses qui toucheront essentiellement le sud. Le vent pour ce matin orienté sud-est, 10 à 15 nœuds sur l'ouest, le sud-est plutôt 15 à 20 nœuds sur le sud. Sur les Loyautés, il sera orienté nord-ouest autour des 15 à 20 nœuds. Il tournera au sud-est en fin de matinée sur marée. Cet après-midi, le littoral ouest de la Grande Terre bénéficiera d'éclaircies et les averses y seront rares. Les nuages resteront nombreux sur la chaîne, puis sur l'est où de fortes averses se déclencheront, pouvant aller jusqu'à l'orage. Sur les Loyautés et Bélep, le ciel restera menaçant avec toujours un risque orageux. Le vent pour cet après-midi au sud-est toujours 20 nœuds, il se renforce jusqu'à 15 à 20 nœuds sur le sud. Sur les Loyautés, la pointe nord, il sera orienté sud-est autour des 10 à 15 nœuds. Les températures 28 à 30 degrés en général et jusqu'à 31 voire 32 degrés, ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry pour ces prévisions météo. Je rappelle qu'il y a quelques conséquences, hein, notamment sur les transports terrestres et maritimes. Le SMTI annonce que tous les départs des bus rails ne se feront pas avant 8h30 et le Betty Show a annulé hier ses rotations en raison d'une panne sur le navire de la Sud-Il. L'un des quatre moteurs est hors service. Maintenance technique programmée jusqu'à ce vendredi inclus. Et puis à Yengen, fermeture des établissements scolaires aujourd'hui, les établissements publics. Le service de transport est également suspendu. Reprise de tout cela demain. Merci à tous d'avoir écouté ce journal.